Bonjour à tous. C'est l'intention qui compte. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Eh bien, ce matin, c'est un peu le titre de notre méditation. Je vous invite à trouver Matthieu chapitre 5. On va lire à partir du verset 17. Matthieu 5, à partir du verset 17. Il s'agit de notre quatrième message sur ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Pendant plusieurs semaines, tous les deux dimanches à peu près, pendant 3 ou 4 mois, nous allons regarder plusieurs versets pour parcourir tout le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne occupe Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. À ce sujet, il y a une douzaine d'années, dans les librairies en monde anglophone, les librairies non chrétiennes, un livre est sorti intitulé « Les discours qui ont changé le cours de l'histoire ». Et quand on regarde les discours, il y a des discours des gens que vous connaissez. George Washington, Bonaparte, Lincoln, Churchill et son meilleur ami De Gaulle, Martin Luther King, Mandela. Mais le tout premier discours dans ce livre, qui est un livre non chrétien, le sermon sur la montagne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, comme on dit. Intéressant. Un discours qui a changé le cours de l'histoire. Et si nous mettons en pratique son discours, ça changerait le cours de notre vie. C'est la raison pour laquelle on prend du temps pour regarder et pour étudier ce texte. Alors, Matthieu 5, donc, à partir du verset 17, c'est Jésus qui parle. Et dans ces versets, il adresse 3 sujets. Les commandements, le cœur, et la colère. Si vous pensez que les commandements ne vous concernent pas, vous pouvez dormir pendant 10 minutes. Si votre cœur est en bon état, vous pouvez dormir pendant encore 10 minutes. Mais si vous n'avez pas de problème avec la colère, eh bien, je dirais que vous êtes peut-être menteur, et vous n'aurez pas le droit de dormir pendant les 10 dernières minutes. Mais je pense que si nous sommes honnêtes devant Dieu, les commandements, le cœur, la colère nous concerne tous. On va lire en 3 temps. D'abord, les commandements. Matthieu 5, à partir du verset 17. Je crois que j'ai mis verset 16, mais c'est verset 17. Les commandements. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous arrêtons notre lecture là pour un premier arrêt. Dans ces quelques versets, je trouve que Jésus fait 4 mises au point. 4 mises au point importantes en ce qui nous concerne. Et la première mise au point, c'est tout simplement, l'Ancien Testament est important. Il m'arrive de rencontrer des chrétiens dans les églises où je voyage, qui me disent, je suis un chrétien néo-testamentaire. Pire, c'est ceux qui disent, je ne lis que les Épîtres. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Et Jésus dit ici, je ne suis pas venu pour dire que l'Ancien Testament n'a plus aucune importance. Il dit, je ne suis pas venu pour dire que l'Ancien Testament n'a plus sa place ou n'a que peu d'utilité. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir l'Ancien Testament, ou pour vous dire, vous n'avez qu'à déchirer la première moitié de la Bible, surtout pas. Jésus dit, je suis venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir, pour compléter, pour donner son sens véritable au texte de l'Ancien Testament. Jésus est 100% d'accord avec ce qu'il appelle les lois, la loi et les prophètes. C'était une façon de résumer tout l'Ancien Testament, les 39 livres depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Je suis venu pour accomplir cela et pour leur donner toute leur importance. L'enseignement de Jésus-Christ ne contredit nullement l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament. Pour lui, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont tous deux importants. En d'autres mots, pour être plus clair, ou on a peu plus clair, Jésus préconise, ou encourage, ou exige que les chrétiens en 2017 se nourrissent de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour nous. Première mise au point. Deuxième mise au point. La Bible ne disparaîtra jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Mais la Bible ne disparaîtra pas. Et c'est Jésus qui le dit. Toutes les prédictions, toutes les prophéties dans ce livre vont disparaître après que le monde aura disparu. C'est vraiment fort. La terre et le ciel risquent de disparaître avant que les Bibles ou que la parole de Dieu ne disparaissent. Tout ce qui est écrit dans ce livre aura lieu, c'est sûr et certain. Signé Jésus, Fils de Dieu. C'est lui qui le dit. Vous savez certainement que le premier livre à être imprimé était la Bible, grâce à Gutenberg et d'autres. Et le dernier livre à être imprimé sera certainement, encore et toujours, la Bible. Si vous avez vu le film « Le livre d'Élie », ce n'est pas un film inspiré du Saint-Esprit, mais dans ce film, on parle du livre avec un L majuscule à la fin des temps. Et le livre, c'est bien sûr, sans dévoiler la fin du film, c'est la Bible. La Bible, les amis, ne disparaîtra jamais. Et est toujours et restera le best-seller. Troisième mise au point. Chaque commandement est important, dit Jésus. N'oublions pas que Jésus s'adresse à ses disciples. Et il dit que chaque commandement est important. Un n'est pas plus important qu'un autre. Je peux dire, je vais venir au culte tous les dimanches. Quatrième commandement, c'est important. Mais si je me permets de voler à l'étalage en semaine, ou si je me permets de convoiter la Ferrari de mon voisin tous les jours, eh bien, est-ce que je suis un bon chrétien? Tous les commandements doivent être respectés. Jésus dit, si on viole un commandement, on est coupable de tous. Et son frère, Jacques, dans son épître, dit ceci, « Si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. » Jacques 2, verset 10. Chacun des 10 commandements est important. Quatrième mise au point. Jésus dit que les chrétiens, les vrais chrétiens, doivent être différents des autres. Jésus compare les chrétiens avec les chefs religieux à l'époque. Et il dit, vous devez être différents de ces gens-là. Être différent, eh bien, c'est possible. Notre comportement doit être différent. Nos valeurs doivent être différentes. Nos motivations doivent être différentes. Nous avons beaucoup parlé de la grâce de Dieu ce matin, de la grâce de Jésus. Tout ce qu'il a fait pour nous qui ne méritions rien. Rien que ça, c'est une, j'allais dire, une sacrée motivation pour mener une vie différente? Est-ce que notre différence se voit? Comme je l'ai souvent dit, si nous sommes différents, notre différence ne laissera pas indifférent ceux qui nous regardent et ceux qui vont constater. Mais ces gens-là sont différents. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons être différents des autres. Ces quatre mises au point de la part de Jésus nous montrent, comme si on ne savait pas encore, nous montrent que la foi chrétienne n'est pas une religion morte, mais une relation vivante. Ces mises au point nous montrent et nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas une activité banale où on s'ennuie de jour après jour, mais que la vie chrétienne est une relation vivante avec le Dieu vivant et vrai. Et ce Dieu-là, celui qui nous transforme, qui nous métamorphose, qui nous sanctifie, à condition que nous lui donnions la main. On te passe la main, Seigneur. On te donne la main. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est un peu ce que Élie a fait au début de ce culte. Nous avons lu un roi, 17. Il se laissait conduire par le Seigneur dans des circonstances pas évidentes. Mais il a vu Dieu à l'œuvre parce qu'il était soumis à son maître. Croire en Christ n'est pas une idéale théorique, mais une façon de vivre très pratique, très pragmatique, voire radicale, si nous laissons le Seigneur agir en nous. C'est l'intention qui compte. Les commandements, 4 mises au point. Je propose qu'on poursuive la lecture avec les versets 21 et 22, Matthieu 5, 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Est-ce que vous avez déjà traité un chrétien d'imbécile ou de fou? Est-ce que vous avez traité un non-chrétien d'imbécile ou de fou dans la colère? Ici, il est question de la colère et de notre cœur. Ce que vous savez, ou peut-être ce que vous ne savez pas, la colère vaut le meurtre. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus le dit. Si c'est moi qui le disais, vous seriez en colère contre moi. Et vous serez tous des assassins. Mais Jésus lui dit, la colère est grave. Des insultes valent un meurtre. Appeler quelqu'un imbécile, c'est comme si on tuait la personne. Jésus emploie ici deux mots d'insulte qui étaient courants à son époque. Un mot fait allusion à la tête de la personne. Le mot « raca » qui est peut-être dans votre Bible. Parfois, on met le mot « raca » dans la Bible. Et l'autre mot, c'est le mot « mort », M-O-R-E. À ne pas confondre avec le verbe « mordre » en français. Et le mot « mort » fait allusion au caractère de la personne. Donc, Jésus est en train de dire, mais si vous dites qu'un tel a la tête vide, ou il n'a pas la pleine cafetière, comme on dirait peut-être, si vous dites qu'un tel a un mauvais caractère, eh bien, vous l'insultez. Et c'est comme si vous étiez en train de le tuer. En anglais, il y a le mot moron. Et moron vient du mot ici, grec, mort, ce qui veut dire quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes. Appeler quelqu'un insensé, fou, malade, cinglé, marteau, complètement givré et j'en passe des meilleurs. Eh bien, Jésus dit, c'est aussi grave que de le tuer. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de la gravité de la colère ou de nos paroles, je vous invite à lire l'épître de Jacques, parce qu'il consacre la moitié d'un chapitre au danger de la langue. Les candidats aux élections ne sont pas les seuls capables de blesser des gens par leurs paroles. Les chrétiens sont très souvent coupables et capables de blesser des gens à cause de leurs paroles, à cause d'une colère non maîtrisée. Paul dit dans Éphésiens 4, il cite le psaume 4, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Donc, ça veut dire qu'il est possible de se mettre en colère sans pécher. Alors, je vais vous montrer une question qu'un enfant a posée à son grand-père. Je crois que j'ai déjà parlé de ça un jour, ici au culte. Un enfant dit à son grand-père, « Comment se mettre en colère sans pécher ?» Et le grand-père, avec sa sagesse de vieillard, il faut se mettre en colère contre le péché. Alors, on pourrait prendre une demi-heure pour débattre de ça. Mais en tout cas, on peut se mettre en colère sans péché. Il y a des exemples bibliques de colère sans péché. Ancien Testament et Nouveau Testament. Je vais vous montrer une citation d'un homme qui a vécu 4 siècles avant Jésus-Christ. Aristote, sagesse d'Aristote. Il est facile de se mettre en colère. On est tous d'accord. Mais il est plus difficile de se mettre en colère avec la bonne personne, de la bonne manière, pour la bonne raison et au bon moment. J'ai mis le mot « bon » et « bonne » en rouge. Je répète, il est facile de se mettre en colère, mais il est plus difficile de se mettre en colère avec la bonne personne, de la bonne manière, pour la bonne raison et au bon moment. Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ. La colère ou la maîtrise de soi. Parfois la colère, c'est parce qu'on veut maîtriser l'autre, mais la maîtrise de soi. Comme on dit en français courant, le self. Voilà, très bien. Le self-control. Galates 5, 22 parle de la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre la maîtrise de soi. Selon des statistiques de la police à Chicago, en ce moment, depuis 2-3 ans, un meurtre sur 30 est un fruit de la colère non maîtrisée chez quelqu'un. J'aurais pensé peut-être même plus. Mais en tout cas, 1 sur 30, c'est à cause de la colère. On est en colère et on passe à l'action. Et on assassine. Pour certaines personnes, pour certains chrétiens, la colère n'est pas toujours un problème. Et pour d'autres, en fonction de notre tempérament, de notre personnalité, de notre caractère, la colère peut être un problème. Mais je vous encourage à demander au Seigneur qu'il vous aide, qu'il m'aide, qu'il nous aide à maîtriser notre colère, à confesser notre colère, mais aussi à exprimer notre colère de la manière qui convient. Au sujet de la colère, il y a 3 livres que j'aimerais vous encourager à lire. Un livre qui s'appelle « Furieux et furieuse ». Voilà, quelqu'un qui est là, c'est bien. Avec le sous-titre « Comment gérer sa colère et comment désamorcer la colère des autres ». Je crois que c'est Chapman qui l'a écrit. En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez à la maison de la Bible. Non, pas demain, c'est fermé demain. Allez tous, mardi matin, ça ouvre à 9h30, et achetez ce livre. Un deuxième livre, qui est pour parents, qui est un livre excellent, « La colère des enfants ». Au sujet de la colère des enfants. Encourager les enfants à ne pas C'est quoi le mot, le contraire de exprimer? Refouler, merci. À ne pas refouler la colère, mais une façon de s'exprimer. Et ce livre parle aussi de la colère des parents. Et puis, un troisième livre, et si vous voulez celui-ci, ça coûte 6 euros, et Brigitte en a un paquet ce matin. Le chrétien et la colère. Un cours biblique par correspondance sur la colère, qui peut nous aider avec la colère. Ah, voilà les trois livres. La colère des enfants, les chrétiens, la colère, furieux et furieuse. Dernière lecture. On parle encore du cœur, mais on parle aussi de la colère. Matthieu 5, à partir du verset 23. La colère, ce que vous devez faire. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime d'euro. La colère, ce que vous devez faire. Alors, dans ces quelques versets, Jésus envisage deux scénarios. Il envisage les gens au culte. Les gens, à l'époque de Jésus, venaient au temple avec leur offrande, à offrir en sacrifice. Et Jésus dit, si tu es au temple et tu te souviens, mais je suis en colère contre quelqu'un, laisse ton offrande, va te réconcilier, reviens au temple, et là, tu es en état d'offrir ton offrande au Seigneur. Pour traduire ça en paroles du 21e siècle, si je viens au culte le 5 mars 2017 pour louer le Seigneur, pour offrir mon sacrifice de louange au Seigneur, et si je me souviens que je déteste ou que je suis en colère contre un de vous, je dois quitter la salle, demander à mon frère et ma sœur de sortir avec moi, d'expliquer ma colère, demander pardon, régler ça. Après, revenir à la salle, et puis, je suis en état de louer le Seigneur. Alors, dans certaines églises que je connais, je peux vous dire que si ça se faisait, la salle serait à moitié vide à cause des disputes entre chrétiens dans cette église-là. Ça, c'est le premier scénario. Si tu te souviens que tu es indifférent ou que tu es en colère, eh bien, ne viens pas prier. C'est pas la peine. Va d'abord te réconcilier. Deuxième scénario, Jésus était sans doute dans le nord du pays. Il fallait 3 jours pour aller de la Galilée à Jérusalem pour le temple. Si tu es en route pour le temple, et pendant les 3 jours de voyage en groupe, tu te souviens que tu es en colère contre quelqu'un dans le groupe, eh bien, arrête-toi en chemin. Réconcilie-toi. Et là, tu seras en état pour aller au culte. Au XXIe siècle, si tu es en route pour le culte et tu te souviens que tu n'as pas parlé à ta femme depuis 3 jours, elle est avec toi dans la voiture et vous allez pour dire le Seigneur est bon et on a passé une semaine formidable, eh bien, arrête la voiture quelque part où tu pourrais parler et faire la paix, demander pardon, faire sortir la colère avant de venir au culte. Je ne parle pas que avec femme ou mari, mais il peut arriver qu'on sait qu'un jour on n'est pas bien. Et Jésus dit, mais arrête tout, va te réconcilier. Comment pouvez-vous chanter ensemble? Nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons prier ensemble. Ben non. C'est du bidon. Comment est-ce que vous pouvez chanter tous ensemble amis, chantons d'un cœur joyeux. Comment est-ce que vous pouvez chanter? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous partageons nos joies, pire que des hypocrites. Et Jésus connaît notre cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pragmatique, c'est on ne peut plus pratique. Aimons-nous les uns les autres. Réconcilions-nous. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix. Recherchez la paix avec tous. Dans ces versets, Jésus parle au verset 23 de votre frère, verset 24 de votre frère, verset 26 de votre adversaire. Comme quoi un frère ou une sœur peut devenir un adversaire, une adversaire. Et Jésus dit, stop, réconciliez-vous, arrêtez le cinéma. Les Oscars, c'était la semaine dernière. Les Césars, c'était la semaine avant. Le BAFTA, c'était il y a 3 semaines. Vous n'allez jamais gagner de statuette. Mais ça va marquer votre cœur. Et Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre colère. Est-ce que c'est une chose aisée à faire? Bien sûr que non. Mais ce n'est pas une chose impossible. Dieu peut m'aider à me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur. Et souvent, c'est à moi de faire le premier pas. Peut-être mon frère, ma sœur n'est pas conscient que je suis en colère contre lui, contre elle. Et cette colère va créer une barrière entre moi et Dieu, entre moi et mon frère et ma sœur. Je termine avec l'exemple le plus frappant que j'ai témoigné il y a quelques années dans l'église où nous servions le Seigneur. J'étais un des tout premiers au culte, ça ne m'arrive pas très souvent, un des tout premiers au culte. Et dans cette église-là, on avait un frère qui devait préparer la scène, enfin un frère ou une sœur, préparer la scène et aussi être le portier pour l'accueil. Donc j'étais là avec un couple. Et puis, on était dans la cuisine, le couple était en train de préparer le pain et le vin pour la scène. Personne d'autre était dans la salle. On était dans la cuisine, derrière la salle. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et le frère est vraiment rentré dans sa femme. Avec des paroles pas très catholiques, pas très dignes du Seigneur avant un culte. Alors moi, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Mais en tout cas, la colère était visible. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me mêler de ça, surtout au début, avant le culte. Je devais prêcher en plus, donc je devais, on verra tout ça plus tard. Le frère, il était président du culte. Donc, il a présidé le culte. J'étais le seul à savoir ce qu'il avait dit à sa femme. Et sa femme s'occupait de la sono au fond de la salle. Et puis, on arrive au moment de la scène. Moi, j'avais plus ou moins oublié les disputes et les paroles. On arrive au moment de la scène. Donc, la scène est là, on prie. Et puis, le frère dit, avant de distribuer la scène, je dois vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Il appelle sa femme par son prénom. Et il a demandé pardon à sa femme. En public, c'était pas du cinéma, c'était pas de m'as-tu vu. Il a demandé pardon à sa femme pour les paroles dures qu'il lui avait dites avant le début du culte. Sa femme pleure. Une ou deux autres personnes qui connaissaient ce frère, qui était un frère, pour lui de dire ça en public, c'était très, très, très difficile. Donc, d'autres personnes avaient un peu la larme à l'œil parce qu'ils connaissaient ce frère. Mais le frère a demandé pardon en toute simplicité. Il n'a pas étalé tout ce qu'il a dit. Et elle a dit, je te pardonne. Après ça, il dit, je suis prêt à prendre la scène. Il n'était pas obligé de faire ça devant tout le monde. J'étais le seul témoin. Mais pour lui, pour être en paix avec Dieu, avec sa femme, il fallait le dire. C'était une histoire réglée. Les amis, les commandements, oui, tous sont importants. Notre cœur, oui, il est important. La colère, oui, il est important de maîtriser la colère. Jésus dit, restez vigilants et priez afin de ne pas céder à la tentation. Marc 14, 38. Moi, j'ai dit, restons vigilants et prions afin de ne pas céder à la colère. Que Dieu nous aide, si nous devons nous mettre en règle avec un frère et une sœur, qu'on le fasse sans tarder. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que ton enseignement est tellement pratique et clair. Et nous voulons être des disciples fidèles. Aide-nous, Seigneur, à aimer et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aide-nous à être des chrétiens bibliques et pas seulement néo-testamentaires. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur notre cœur, car nous savons que de lui viennent les sources de la vie. Aide-nous aussi à prier, afin de ne pas tomber dans la tentation et dans la colère. Aide-nous à savoir exprimer notre colère de la bonne manière. Et pardonne-nous lorsque nous nous mettons en colère pour des bricoles. Et aide-nous, Seigneur, à vouloir vivre dans la lumière avec nos frères et nos sœurs. Aide-nous à vouloir nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs, afin que ta paix puisse vraiment régner dans notre cœur. Nous te demandons cela en ton bon nom. Amen.